Bon matin à tous. Alors, bonjour à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent sur la toile via la technologie. J'espère que vous êtes installés confortablement. Parce que aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui, je crois, va vous concerner. C'est un sujet qui parle d'une vie imparfaite dans un plan parfait. Est-ce qu'il y en a ici parmi vous en salle ou parmi vous à l'écran qui considérez comme votre vie étant imparfaite, correspond pas nécessairement à vos attentes, là. Votre vie correspond peut-être pas à l'idéal que vous vous êtes fait, spécialement si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, puis lorsque le Seigneur est venu vous rencontrer, puis que vous avez découvert qu'il était votre sauveur et qu'il vous a sauvé. Et vous avez peut-être une illusion ou une idée de ce qu'allait être la vie chrétienne et vous réalisez peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, que c'était pas tout à fait ce genre de vie-là que vous attendiez. Qu'il y avait peut-être un peu plus d'obstacles, un peu plus d'épreuves, que la vie est un petit peu moins rose que vous vous attendiez. Et c'est pour ça qu'on va voir, c'est la suite de notre dernière rencontre avec moi, lorsque j'ai fait un survol de la première partie du livre de Josué. À cette époque-là, j'avais survolé les chapitres 1 à 12. Et puis, on voyait ensemble que Josué n'était pas nécessairement à la hauteur de sa vocation. Mais Dieu l'avait appelé à justement oser s'aventurer sur un terrain qui n'était pas nécessairement à la hauteur de ses capacités. Mais là, ce qu'on va voir ensemble, c'est l'invasion d'Israël dans la terre promise puis la conquête de Canaan. On va voir un survol très rapide des chapitres 13 à 24. Et au travers de ces chapitres-là, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que la vie du peuple de Dieu, c'est une vie imparfaite, mais dans un plan parfait de Dieu. On va voir la répartition du territoire, puis le repos après la conquête. Alors, Israël est appelé de Dieu à conquérir un territoire, le territoire de Canaan. Et c'est un territoire que Dieu a dit, c'est un lieu où est-ce que va couler le lait et le miel. Et à ce moment-là, ce qu'on va comprendre au travers ce message, du moins c'est ce que j'espère, c'est qu'on puisse chacun comprendre qu'à la fin de cette présentation, ce qu'on ne contrôle pas fait parfaitement partie de notre cheminement et du plan parfait de Dieu pour notre vie, et comme on le voit dans le texte, pour son peuple. Et donc, un peu pour se mettre en contexte, pour se mettre en situation, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez Nick Vujicic. Nick Vujicic, ça paraît pas trop à cause de son veston, mais c'est un homme qui a ni bras ni jambes. C'est un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, et est devenu un conférencier, un motivateur chrétien, et il s'est marié. Il s'est marié avec une jolie dame, presque aussi jolie que Nathalie Lalonde. Et puis, mais savez-vous quoi? Ce couple-là vit une situation imparfaite, mais dans une union parfaite, dans un plan parfait. Ils sont faits l'un pour l'autre, ils sont mariés, maintenant son épouse a eu un enfant. Et donc, quand je regarde ça, je me dis, c'est certainement pas parfait, avoir un mari qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes. Mais ils s'aiment, ils sont ensemble, et c'est parfait ici. Et donc, je vous invite à tourner avec moi dans le Deutéronome chapitre 7, spécialement pour se mettre dans le contexte de cette deuxième partie du livre de Josué. Deutéronome chapitre 7, verset 1. Et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'il y a de si imparfait dans le peuple de Dieu, mais qui fait partie du plan parfait de Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais vous inviter, avant qu'on lise le premier verset de Deutéronome 7, à se recueillir, puis la raison pour laquelle on se recueille, c'est simplement pour que notre cœur soit disposé à retenir qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin, qu'est-ce qu'on a à méditer cette semaine. Il y a peut-être un élément de cette présentation-là qui va t'amener cette semaine dans ta voiture, chez toi, à réfléchir et à dire, « Wow, Dieu veut m'instruire sur ce sujet-là » ou veut m'amener plus en profondeur dans cette direction-là. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole qui est si précieuse et qui en est digne de la prêcher, Seigneur? Si tu attendais que tes disciples soient parfaits, eh bien, il n'y a personne qui pourrait te servir. Merci pour le Dieu de grâce que tu es, le Dieu qui nous appelle à aller continuellement de l'avant, pas à pas, un pas à la fois. Merci pour l'exemple du peuple d'Israël, parce que ce n'est pas des gens parfaits que tu appelles, mais ton plan pour nous est parfait. Je te rends grâce que ta volonté, ton cœur, ton désir, c'est de nous instruire chacun de nous, parce que tu veux nous voir grandir, croître et aller de progrès en progrès, pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans le Deutéronome chapitre 7, pour se mettre en contexte, quelle était la vocation du peuple de Dieu au temps de Josué? Eh bien, ça nous dit au verset 1, « Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Éthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. » Et si on va voir dans Josué 13:6, on voit que Dieu avait pour plan de les chasser devant les enfants d'Israël, ces nations-là. Mais pourquoi Dieu voulait chasser ces nations-là? Je ne vous demanderai pas de tourner dans ce passage-là, mais dans Deutéronome 18, on voit dans les versets 10 à 14, c'était un peuple, une nation qui vénérait des esprits, qui consultait des esprits, qui consultait des astrologues et qui était attaché aux arts divinatoires. Mais à cette époque-là, ces gens-là, qui étaient attachés aux arts divinatoires, était très barbare, spécialement envers les enfants. Et je n'avais parlé la dernière fois, il y avait dans leur culte ou dans leur cérémonie, ils offraient en sacrifice des enfants. Et aujourd'hui, certains le font dans le ventre de leur mère, mais eux autres, ils le faisaient une fois vivant. Mais nous, la mauvaise lecture qu'on peut faire, parce que certains détracteurs de la Bible vont dire, « Oui, mais l'Ancien Testament, c'est un livre de carnage. On regarde dans Josué, ils ont tué des gens, puis vraiment, ça ne se peut pas que Dieu les ait appelés à faire ça. » Mais je veux vous rappeler, on l'a vu, mais juste rapidement pour se mettre dans le contexte, pour ceux qui n'étaient pas là lors du dernier survol de Josué dans la première partie. Dans le Deutéronome 20, 10 à 17, Deutéronome 20, 10 à 17, Dieu a demandé une chose au peuple, c'est que quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Il n'arrivait pas en sauvage avec l'épée dans les mains et tuer tout le monde. Il s'arrêtait et disait, on vous offre la paix, nous on s'en vient s'installer ici puis on vient instaurer les lois de l'Éternel. Puis s'il refusait, c'est alors dire, vous refusez, là on vous attaque. C'était vraiment fait en gentleman, c'était pas fait en sauvage, en barbare. Et nous, qu'est-ce qu'on a à apprendre là-dedans? Est-ce que nous, les chrétiens, on est appelés à tuer des gens loin de là? La Nouvelle Alliance nous dit que nous, nos ennemis, sont dans les lieux célestes. Il y a des esprits méchants qui tentent de nous corrompre, qui tentent de nous séduire, qui tentent de nous empêcher d'annoncer l'Évangile, de nous intimider. Et on doit prier pour qu'on puisse trouver la victoire qui est à nous en Jésus-Christ. Parce que Jésus a vaincu à la croix, comme on voit dans Colossiens, nos ennemis. Et donc, dans quel contexte le Seigneur accomplit-il son plan parfait? Eh bien, on va voir que c'est au travers une gestion de problèmes, au travers des recommandations et au travers un appel au repos. C'est intéressant parce que son plan parfait s'accomplit au travers une gestion de problèmes. Et là-dedans, on va en voir quelques-uns. Et Le premier, si on veut, c'était la négligence. Est-ce que ça arrive des fois à des chrétiens d'être négligents? Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que ça m'arrive? Ça m'arrive. Et ce qui est intéressant, c'est dans Josué 13:13, Dieu appelle ce peuple et dit, « Je les livre entre tes mains. » Mais on voit que les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéchuriens et les Maacathiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. On voit aussi le cas des Jébusiens dans Josué 15:63. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. On voit dans 15:10 qu'ils ne chassent pas les Cananéens. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un compromis. Ils ont dit, on ne les chassera pas. Mais, regardez bien, il dit, ils ne chassèrent point les Cananéens dans 15:10 qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut. Ils disent, bon, au lieu de les chasser, on va faire de l'argent avec eux. On va leur demander de payer un impôt pourvu qu'ils restent tranquilles. Dieu dit, chasse-les, je les livre entre tes mains. Ils ont fait un compromis. Mais ce qu'on voit, c'est que dans 17:12, les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Et c'est là que lorsque parfois on est négligent ou on fait des compromis dans notre vie, qu'est-ce que ça produit? Mais ça produit qu'à un moment donné, la facture revient tôt ou tard. Et puis là, on est pris avec des conséquences. Puis on se réveille et on se dit, hey, « Seigneur, comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça va mal? Puis ça devrait aller mieux. » Et parfois, on regarde hier, mais parfois, c'est une mauvaise semence ou une négligence qu'on a faite 2 ans, 3 ans, 5 ans auparavant, puis qui nous rattrape. On voit dans le Proverbe 29:21, le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. En d'autres mots, eux autres, ils n'ont pas été chassés, ils ont payé un impôt, un tribut, puis ils se sont dit, ben écoute, on se sent comme chez nous, on était chez nous. Puis à un moment donné, c'est beaucoup plus difficile d'essayer de réparer une conséquence que de l'éviter. Alors, on a un proverbe ici au Québec qu'on entend régulièrement, « Vaut mieux prévenir que guérir. » Et puis ça, c'est un exemple de... C'est beaucoup plus avantageux de prévenir que guérir. On voit dans 17:13, lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Pourtant, ils étaient assez forts pour le faire. Mais ils n'ont pas répondu à la vocation de Dieu de les chasser. Et là, on a l'impression, on dit, « Ouais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu ne châties pas? Tu ne leur donnes pas une petite claque en arrière de la tête? » Non, le Seigneur ne l'a pas fait tout de suite. On le voit dans le livre des Juges, un peu plus loin, que là, ils sont pris avec les conséquences de, on aurait dû chasser ces ennemis-là, on n'aurait dû pas faire de compromis avec eux. Là, on est pris avec un sérieux problème. Et c'est pour ça que dans le psaume 10:4, ça nous dit qu'il y a des gens qui ont l'impression que Dieu n'a rien vu. Ah, Dieu ne bouge pas, Dieu ne châtie pas, Dieu ne fait rien. Il n'a sûrement rien vu. Oui, il tolère peut-être. Mais on le voit dans Juges 1:1, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montrera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? » Là, maintenant qu'ils sont pris avec le problème, ils disent, hey, « Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Ben, je pense qu'il faudrait les attaquer. » Là, maintenant qu'ils nous causent du tort, maintenant qu'on n'est plus confortable, maintenant qu'on n'est plus bien, on va peut-être les attaquer. Puis c'est peut-être ce qui va se passer au Québec ici. On ne réalise pas, on est en train, nous les chrétiens, de perdre nos droits, de perdre nos libertés. Il y a de plus en plus de lois qui sont en train tranquillement de resserrer l'étau. Puis à un moment donné, on va se réveiller. Je vous l'avais dit la dernière fois, il y avait une motion qui a passé à l'Assemblée nationale pour que, au bout de la ligne, à cause de nos convictions et de nos croyances, on perde nos lettres d'accréditation, notre droit de localisation, nos avantages fiscaux. Mais ça n'a pas passé par la grâce de Dieu. Mais c'est juste une question de temps. Dès qu'on va changer de gouvernement, ça va passer. Puis là, on va se réaliser, hey, wow! Imaginez-vous la conséquence? Ça veut dire qu'on n'aura plus le droit de prêcher l'Évangile dans ce bâtiment-là. Il faut vendre le bâtiment. Ça pourrait arriver un jour. Ça aurait pu arriver ce printemps si la loi avait passé. Mais des fois, ça prend des choses comme ça pour nous réveiller. On voit un autre exemple de négligence. Vous pourrez le lire dans Josué 18:1 et les versets suivants. Et parce qu'il y avait à ce moment-là 7 tribus d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Pour verset 3, Josué, il se fâche un peu puis il dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligeriez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, le Dieu de vos pères, vous a-t-il donné? Pourtant, Dieu a dit, je les livre entre tes mains. » Et souvent, ce qui fait obstacle à ce qu'on avance, à ce qu'on obéisse à Dieu, en tout cas dans mon cas, c'est quoi? C'est des craintes, des faux raisonnements, des obstacles qui peuvent nous paralyser. C'est fou, hein? Un obstacle qui peut nous paralyser. Hier, par la grâce de Dieu, mon épouse et moi, on est invités par des amis à aller chez Calypso. C'est les glissades d'eau puis tout ça. Puis moi, je suis un gars qui aime m'aventurer. Puis je vois ça, je dis à Bernard, hey, c'est incroyable. Ça descend comme quasiment 90 degrés, puis ça tourne 360. Puis là, on attendait en ligne, tu sais. Puis là, on calcule ça ensemble, c'est 9 secondes. Mais ce qui arrive, c'est que Bernard a dit, on a de l'air dans un cercueil. La porte s'ouvre. Elle se referme. Puis là, il y a une vitre. Puis là, il y a une des filles qui passe en avant de nous, puis elle commence à crier. Wouah! Puis là, tu entends 3, 2, 1, puis la trappe rouvre. Là, tu peux plus te retenir. Là. C'est comme, quand la trappe s'ouvre, tu passes. Wouah! Puis c'est comme ça fait wouah! C'est fini. C'est intense. Mais moi, là, avant, je dis, hey, moi, je suis rendu à 50 ans, là. Tu sais, là, je me raisonnais, puis j'entends la fille crier, je dis, je veux-tu vivre ça, tu sais? Je veux-tu vivre ça? Là, je rentre ici. Là, la porte se referme, je dis, hey, là, il est trop tard, tu y vas. Là, j'entends 3. Quand ça va faire 1, je vais partir, là. Là, j'étais là. Là, je fallait que je me place comme ça, là, puis j'étais comme, ah, oh, Seigneur, qu'est-ce que je viens de faire, là? Je suis un fou! Ça a comme parti. Là, j'étais là. Si c'était pas du temps d'attente, je l'aurais refait. C'est trop. S'il y a des Français qui nous écoutent, ça veut pas dire la même chose. C'est trop écœurant. Pour nous, les Québécois, ça veut dire c'est merveilleux, c'est fantastique. Pour vous, c'est autre chose. C'était merveilleux, fantastique. Ça passe partout. Mais combien de fois Dieu nous dit, ouais, vas-y, ça va être le fun, c'est excitant. Es-tu malade, Seigneur? Je sais pas, des fois, j'y parle comme ça au Seigneur. T'sais. Je le sais qu'il ne l'est pas, là, tu sais. Mais c'est parce que je suis spontané. Hein, fait que là, je dis, non, ça se peut pas que tu m'appelles à faire ça. C'est bien trop fou. C'est bien trop dangereux. T'as coup, je perds. T'as coup, je me fais mal. T'as coup, qu'il se passe quelque chose. Moi, j'étais là. Tu sais, j'essayais de me raisonner. Le pire qui va arriver, c'est qu'au bout de la ligne, je vais être mouillé, tu sais. Mais c'était plus fort que moi. C'était intense. C'était comme, qu'est-ce que tu fais là? Dans quoi tu t'es embarqué? Ça vous arrive pas des fois? Je disais, hey, pourquoi j'ai oublié à Dieu là-dedans? Pourquoi je déménageais à Gatineau? C'était une superbe décision. Mais je veux dire, c'était tout quand je suis parti, je m'en allais vers l'inconnu. Dans quel contexte le Seigneur accomplit-il son plan parfait au travers d'une gestion de problèmes qui touche l'exigence des enfants? Est-ce qu'il y en a ici qui ont des enfants? Hein? Il y en a ici qui ont des enfants. C'est-tu le fun d'avoir des enfants? C'est-tu beau quand ils sont tout petits? T'sais? Une amie à moi m'avait dit, petit enfant, petit problème, grands enfants, grand problème. Mais moi, je me dis, bah, peut-être pour toi, mais moi, là, j'ai suivi des cours, là, puis... Ça va aller mieux. Je pense que j'ai parlé trop vite. Mais j'ai des bons enfants, c'est ça le pire. Imaginez si je n'avais pas des bons enfants. Mais on voit, mon beau-père va l'aimer celle-là. Caleb. Mais tu vas-tu parler de Caleb? Oui, un petit peu, Caleb, oui. Ouais. Tu l'aimes toi aussi? C'est bon ça. Donc, Caleb, il s'en venait vieux, mais Caleb, c'était un fonceur. Puis lui puis Josué, ils voulaient conquérir Canaan parce qu'il dit, Dieu le livre entre nos mains. Hein, Josué? Oui, oui, c'est correct. Ah, ouais, on va attaquer, on y va. Mais là, il se trouve vieux, tu sais, Caleb. Puis il dit, attends une minute, j'ai une idée. J'ai une belle fille, je vais l'offrir en cadeau. Puis le plus vigoureux, le plus vaillant qui va désirer ma fille, lui, il va tout faire pour se battre, pour conquérir cette ville-là. Fait qu'il est pas fou, il faut faire la job par un autre. Mais là, dans 15-15, il dit, il monta contre les habitants de Débir, qui s'appelait autrefois Kiriath Sefer. Et quand on va voir dans l'hébreu, qu'est-ce que ça veut dire, Kiriath Sefer? Ça veut dire la ville des livres, des manuscrits. C'est là qu'on conservait les généalogies, l'historique du peuple. Lui, il s'est dit, s'il y a une ville à conquérir, c'est celle qui tient l'histoire du peuple, son patrimoine. C'est pas pour rien que l'ennemi, il fait passer des choses anodines. Il amène de l'intimidation auprès des commerçants, dit, on devrait pas dire aux gens joyeux Noël, joyeuse fête. Il y en a qui ont même plus loin, joyeux décembre. Même il y a eu, moi je ne sais pas si vous l'avez entendu à l'époque à Gatineau, il y a quelques années, mais à Montréal, ça a fait un tollé. On a même demandé au premier ministre qu'est-ce qui en passait, à l'époque c'était Jean Charest. Est-ce qu'on devrait encore appeler ça un sapin de Noël? Parce que Noël, ça fait référence à la nativité Jésus, le Sauveur qui vient sur la terre. On veut dénaturer notre patrimoine. Parce qu'on va enlever les références à l'Évangile. Et moi, je veux me battre pour ça. Moi, je veux me battre pour ça. Parce que même qu'on fête Noël ou pas, ça devient un point de repère pour notre nation. Ça devient une occasion pour pouvoir expliquer le sens réel de cette fête-là. Et c'est pas juste un joyeux Noël ou un joyeux décembre ou une joyeuse fête des neiges ou des lumières. Caleb, à ce moment-là, il donne sa fille, Aksa, pour femme, à celui qui battra Kiriath Sefer. Puis c'est Othniel qui a dit, oui, moi j'y vais. Mais ce qui arrive, c'est qu'une fois que la ville est conquise, Caleb, il dit, bon, je vais pouvoir m'installer là, dans cette ville-là. Mais sa fille, elle se dit, papa, fais-moi donc un cadeau, verset 19. Parce que tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Puis lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos enfants? Ce n'était pas suffisant. Ce que son père avait contribué à ce que cette ville-là soit conquise, sa fille voulait, comme on dit en anglais, « nothing but the best ». Elle voulait le meilleur lot. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait pour sa fille. Donc, des fois, il va arriver dans nos vies que nos enfants vont amener des soucis, des contraintes, des situations imprévues qui vont nous amener à vivre certains efforts ou à se sacrifier pour eux. Puis, c'est pas toujours mauvais. C'est pas toujours mauvais parce que ça nous fait grandir, ça nous fait croître. Mais il faut continuellement rechercher la sagesse de Dieu pour accorder à nos enfants ce que Dieu veut qu'on leur accorde. Parce qu'il y a un temps pour dire oui, puis il y a un temps pour dire non également. Au travers d'une gestion de problèmes, on voit qu'il devait y avoir une provision particulière, par exemple, pour ceux qui, on voit ça au chapitre 20. C'est, pour comprendre le chapitre 20, il faut revenir en arrière dans Nombre 35. Dieu avait instauré, il voulait instaurer en Israël des villes de refuge. Mais ça démontre une chose, que s'il y avait des villes de refuge, c'est que Dieu savait que ça allait pas être parfait, même si Dieu amenait son peuple dans un territoire, qui dit, vous allez vous installer là, vous allez mettre en pratique mes 613 commandements, puis moi, je vais être votre Dieu, puis vous allez être une nation témoin. Mais il savait que même si c'était son peuple que Dieu appelait, puis qu'il voulait régner sur lui, il allait avoir des anicroches. Il savait que dans son plan parfait, il allait avoir des imperfections. Et quelles imperfections nous parle le nombre 35? Ça parle des gens qui commettaient, par exemple, un meurtre non prémédité, donc par accident. Et on voit dans Josué 20 que l'Éternel parle à Josué puis dit, « Parle aux enfants d'Israël, établis des villes-refuges, comme il avait exigé dans le nombre 35. » Puis on voit au verset 3, « Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement? » Lui, ce qui arrivait, c'est que celui qui avait tué involontairement, il s'en va dans cette ville-refuge-là. Là, tu sais, c'est un peu comme quand tu joues à cachette, tu touches à l'arbre ou tu joues à tag, tu dis, « Bon, ben tu peux pas me toucher parce que j'ai touché à l'arbre, je suis sauf. » Dans cette ville-là, c'est comme s'il y avait des gens de l'entourage de la personne décédée, il ne pouvait pas régler son cas. Il est dans une ville-refuge, tu ne peux pas y toucher. Et là, cette personne-là qui a commis le meurtre non prémédité ou involontairement ne pouvait pas retourner dans sa ville tant qu'il n'était pas jugé. Puis c'est là qu'une fois qu'il est jugé, qu'il est déclaré coupable ou non coupable, ou peu importe quelles seront les conséquences selon la loi que Dieu avait établie. Donc Dieu, dans son plan parfait, avait prévu que ça allait être imparfait. Puis il gère son plan parfait en fonction de ça. Nous, on a un avocat auprès du Père. L'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre, au chapitre 2, les versets 1 et 2, 1 Jean 2, 1 et 2, il dit qu'on a un avocat auprès du Père. Savez-vous quoi? C'est pas que Jésus est en train de nous défendre en disant, « Père, tue-les pas, parce que là, calme-toi un peu, là, j'ai payé pour eux. » Non, le Père et le Fils sont un, sont inséparables, ils pensent la même chose. Jésus nous défend auprès du Père contre l'accusateur des frères. C'est contre celui qui nous accuse, c'est contre notre ennemi qui est notre avocat. Et le Père acquiesce, approuve, parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et dans quel contexte le Seigneur accomplit-il son plan parfait? Bon, au travers d'une gestion de problèmes qui implique l'incompréhension. Celle-là, elle est extraordinaire. Chapitre 22. Vous avez une dizaine de tribus qui sont à l'ouest du Jourdain. Il y avait un cours d'eau, qui c'est le Jourdain, un fleuve, qui séparait le territoire de Canaan qui avait été conquis par Israël en deux. Il y avait une dizaine à l'ouest, puis deux tribus et demie, bon, on va dire trois, là, qui étaient à l'est. Mais ce qui arrive, c'est que là où est-ce que il y avait la tente, où est-ce que la présence de Dieu se révélait, puis qu'il y avait toutes comme les cérémonies puis les fêtes, c'était à l'ouest du Jourdain. Mais les trois tribus à l'est qui ont dit, on va se faire un genre de gros monument pour démontrer qu'on est un avec ceux de l'autre côté du pays, parce que nos enfants, eux autres, vu qu'il y a le cours d'eau qui nous sépare, vont peut-être se détacher de ceux de l'ouest. Fait qu'on va faire un genre de monument commémoratif pour dire, non, on est un avec ceux de l'autre bord. Mais ceux de l'autre bord, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris, aha, ils veulent faire un culte parallèle. Ils veulent offrir des sacrifices, des agneaux, le sang en l'honneur de Dieu, mais à leur façon, donc ils veulent nous compétitionner. Fait que ceux de l'ouest, ils arrivent avec le fils du sacrificateur, Phiné, qui est le fils d'Éléazar. Au verset 13, puis il arrive au verset 14 avec 10 princes, un représentant de chaque tribu, puis là, ils vont s'expliquer, là, puis ils étaient prêts à les tuer. Ils étaient prêts à convoquer le peuple puis tuer leurs frères. Mais gloire à Dieu qu'ils ont pris le temps d'aller s'expliquer, parce que quand ils ont expliqué ça, au verset 22, il dit, « Si c'est pour nous révolter et être infidèles à l'Éternel que nous avons construit cet autel, alors ne nous épargnez pas. » Mais à un moment donné, ils ont compris, à force de s'expliquer, puis tout ça. Puis au verset 33 et 34, c'est vraiment spécial. « Les enfants d'Israël furent satisfaits, donc ceux de l'Ouest. Ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays, qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Il était prêt à être tué pour une incompréhension. Et dans le fond, tous les deux étaient d'accord, puis tous les deux, autant l'Est que l'Ouest, trouvaient que c'était une bonne idée. Mais à première vue, ça n'avait pas l'air de ça. Et combien de conflits dans nos relations avec nos amis, avec des membres de notre famille, avec des gens dans l'Église, viennent d'une fausse perception parce qu'on n'a pas pris le temps de s'expliquer. Puis des fois, on pense la même chose, mais juste parce qu'on le dit différemment, on pense que c'est pas la même chose. Et ça produit des chicanes et même dans certaines églises, des divisions. Mais gloire à Dieu, ici, on a une leçon. Ils ont pris le temps de s'asseoir, s'expliquer, dialoguer, parler. Puis ils ont compris quoi? La motivation derrière l'instauration de ce monument, de cet autel. On voit dans Philippiens 1, sous la Nouvelle Alliance, les versets 15 à 19, Philippiens 1, 15 à 19, que Paul va dire, oui, c'est vrai qu'il y en a qui proclament Christ par jalousie avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, puis d'autres sont animés d'un esprit de rivalité. Puis il dit au verset 18, que ce soit pour des mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. Et des fois pour... M. Farley en a parlé il y a quelques semaines quand il a amené la parole ici. Puis il disait, des fois, il y a des tensions entre frères et sœurs qui sont pour des sujets secondaires. Et ça ne fait pas avancer la cause de l'Évangile. Et il faut faire attention à ça. Parce que, je le répète, nos ennemis sont dans les lieux célestes. Nos ennemis, c'est ceux qui ne veulent pas que l'Évangile avance. Puis certaines églises vont avoir, par exemple, une façon de fonctionner qui est différente. On peut être d'accord ou pas d'accord. Mais est-ce que l'Évangile est prêché? Est-ce que la parole de Dieu est enseignée? Et il faut juste faire attention. Le défi, c'est de ne pas sauter aux conclusions. Et quand quelque chose nous dérange, bien, d'aller voir le frère ou la sœur, dire « Explique-moi. Explique-moi comment ça glorifie Dieu, cette façon-là. Explique-moi. » Et puis si jamais ça ne vous amène pas ou ça ne t'amène pas à changer ta perception, mais de dire « Seigneur, comme c'est dit dans Romains 14, c'est ton serviteur, eh bien, c'est à toi de t'en occuper. » Et puis, gloire à Dieu. Matthieu chapitre 18 nous dit, il dit des deux bords, si tu penses que ton frère a quelque chose contre toi, va le voir lui seul. Il ne dit pas, parle-en à tout le monde, il dit, va le voir lui seul. Si tu penses que ton frère a quelque chose contre toi, ou si toi tu as quelque chose contre ton frère, va le voir lui seul. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Puis aussi, on voit au travers des... ici, on a les ceux qui sont à... Oups, je ne suis pas du bon bord. Ceux les tribus qui étaient à l'est, les tribus à l'ouest. Et le Seigneur accomplit son plan parfait au travers des recommandations. Donc, on voit au chapitre 22, des recommandations. Et ce qui est intéressant, c'est que l'objectif de Dieu, c'est qu'il puisse se reposer, qu'il puisse justement célébrer Dieu, puis s'installer, tout ça. Puis, au verset 5 du chapitre 22, c'est dit, ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit, les renvoya et ils allèrent vers leur tente. Et quel est, dans ce passage-là, le point central? Qu'est-ce qui va faire qu'on va aimer Dieu, qu'on va garder ses commandements, qu'on va le servir de tout notre cœur, de toute notre âme? C'est d'être attaché à lui. On voit que Paul, quand il a rencontré les gens d'Antioche de Pisidie, dans Actes 13, 43, quand il s'est entretenu avec eux, il les a exhortés à rester attachés à la grâce de Dieu. Nous, sous la Nouvelle Alliance, lorsqu'on a une relation intime avec Jésus-Christ, intime avec le Père, par le Saint-Esprit, eh bien,
On est appelé à rester attaché à l'Évangile, à la grâce de Dieu. Il n'y a pas un autre terrain sur lequel on peut approcher Dieu, sinon sur la grâce de Dieu, parce qu'elle se trouve en Jésus-Christ. Quoi que ce soit que le Seigneur nous accorde, que ce soit de s'approcher de lui, que ce soit lui parler quand on dit qu'on prie, on parle au Seigneur, qu'on lui fait part de nos besoins, qu'on prie pour les autres, tout ce qu'il nous accorde. Chacun de nous, on a un toit. C'est une grâce de Dieu. On mange chaque jour, c'est une grâce de Dieu. Et ça nous amène à s'attacher à lui. Et plus que je vais être attaché au Seigneur, plus que je vais être reconnaissant que c'est un Dieu de grâce, puis que tout ce qu'il m'accorde, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est pas un Dieu. Eh bien, ça m'amène à être de plus en plus attaché, puis de plus en plus en amour avec lui. On voit dans Josué 23:1, « Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël, en les délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. » Alors, Josué convoqua tout Israël. Et il dit au verset 7, « Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point. Ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. » Encore une fois, il rappelle, il donne des instructions, tout ça. Mais qu'est-ce qui ramène Josué? Qu'est-ce qui est le point qu'il veut qu'on se rappelle? Qu'est-ce que le Saint-Esprit, sur quoi il veut attirer notre attention? De rester attaché à l'Éternel. Est-ce que toi, dans le plan parfait de Dieu, qui est imparfait pour toi, parce qu'il y a des obstacles, il y a des situations. Moi, je veux dire, je ne me suis même pas posé la question pourquoi ma première épouse est décédée et est décédée de cette façon-là. Parce que si je rentre dans le pourquoi, je ne comprendrai jamais, je ne peux pas rentrer dans le cerveau de Dieu. Je peux juste y faire confiance. Que si ça me fait mal, puis à mes yeux, c'est imparfait. Je peux juste dire une chose, ça fait partie du plan parfait de Dieu. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Paul, il va le dire au sud d'Antioche de Syrie, maintenant, dans Actes 11, 23. Il les a encouragés à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Ne pas s'attacher à d'autres dieux. Puis souvent, je demande au Seigneur, est-ce qu'il y a d'autres dieux, secrètement ou inconsciemment, que je sers? Mais je pense que c'est toi que je sers, mais je sers d'autres dieux. Est-ce que je cherche ma gloire, Seigneur? Est-ce que je me sers de toi pour mes intérêts? Ou c'est vraiment toi que je sers, Seigneur? Je suis attaché à un autre dieu que toi? Et ça, je vais vous dire une chose, c'est épeurant de poser cette question-là à Dieu. Surtout lorsqu'il me le révèle. Les Thessaloniciens, eux autres, ont été loués parce qu'ils se sont détournés des idoles ou des autres dieux, mais pour servir le Dieu vivant. On a un Dieu vivant. C'est pour ça que c'est tellement bon de rester attaché à lui. Et donc, toujours dans Josué 23, verset 11, il dit « Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. » Si tu veilles sur ton âme, ça va t'amener à aimer davantage Dieu. Le proverbe, Salomon va dire dans Proverbe 19, 8, « Celui qui acquiert du bon sens s'aime lui-même. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. » Si on se laisse instruire par Dieu, puis ça nous amène à un bon sens selon sa perspective à lui, parce que ses voix sont au-delà de nos voix, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Mais qu'est-ce que ça va faire en sorte? Eh bien, on va apprécier qui on est dans son plan parfait, même si c'est imparfait à nos yeux. Ce qui est rassurant, c'est au verset 14, il dit que « Aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, ne reste sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. » parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Puis il va accomplir, au verset 15 aussi, toutes les mauvaises paroles, en d'autres mots, les choses qui nous plaisent moins, qui sont de Dieu, bien, il va les accomplir aussi. Puis ça fait partie de son plan parfait. Mais ça nous rassure, parce que Dieu ne nous laisse pas, veut pas nous laisser aller à notre folie. Vous savez, une des choses que moi, je demande souvent au Seigneur, c'est « livre-moi pas à mon propre cœur ». Parce que mon propre cœur, là, il veut m'égarer. Mon propre cœur, il veut te fuir, Seigneur. Mon propre cœur, il n'a pas vraiment le goût de te suivre. Mais à chaque fois que tu m'amènes dans tes voies, à considérer ton plan comme étant parfait, même s'il est imparfait à mes yeux, je réalise à chaque fois que j'avais raison de te faire confiance. Est-ce que vous le vivez comme ça? Est-ce que tu le vis comme ça? Et parce que le plan ultime de Dieu, c'était l'appel au repos. Il voulait qu'il puisse conquérir ce territoire-là pour dire, tu vas te reposer, je suis avec toi, je livre tes ennemis entre tes mains, je vais te donner la force, les stratégies, l'intelligence, les moyens, et là, je vais pouvoir être ta richesse. C'était un appel au repos. Le repos fait référence à plusieurs choses dans la Bible. On voit le repos du septième jour, que Dieu s'est reposé le septième jour de la création. Il y a le repos du sabbat, qui était la septième journée de la semaine. Il y a le repos dans le pays de Canaan, comme on voit ça. Il y a le repos pour nos âmes, il y a le repos spirituel, le repos éternel. Et ici, le repos de Canaan, c'est une vie consacrée où on n'a plus à craindre l'ennemi. Dans 21:44, Josué 21:44, l'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne purent leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Sous la nouvelle alliance, nous, c'est un repos spirituel. Le repos que le Seigneur offrait à Israël, c'était de se reposer sur lui pour la victoire sur l'ennemi et pour toute provision dans son plan. Le repos aux croyants, la nouvelle alliance, c'est de se décharger sur lui de tout fardeau. Et que ce soit relié à la négligence, aux exigences, aux incompréhensions, Dieu nous dit de se décharger sur lui. Dans Hébreux 4, 9 et 10, c'est dit que il n'y a donc un repos de sabbat réservé. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Paul va ajouter dans Romains 12 que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Jean va dire que ses commandements ne sont pas pénibles. Dieu a voulu apprendre à son peuple dans le livre de Josué que le repos ne se trouve pas dans une vie parfaite, mais en faisant parfaitement confiance au plan de Dieu pour nos vies. Et ce que Jésus a proposé à ses disciples, c'était de venir à lui pour trouver le repos pour nos âmes. En venant à lui, puis en recevant ses instructions, en étant attaché à lui et attaché à sa grâce. C'est là qu'on va trouver le repos pour nos âmes, parce qu'il y a tellement de soucis, de préoccupations qui peuvent mobiliser nos pensées, nos cœurs, et nous être une distraction pour juste s'arrêter et se rappeler que Dieu est parfaitement en contrôle de nos vies. Même quand nous, on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle. Même quand les choses, on s'est imaginé que Dieu nous a dit, hey, va dans cette direction-là, puis ce n'était pas Dieu, puis c'était notre imagination, puis qu'on se ramasse, pourquoi tu as permis ça, Seigneur? Dieu savait de toute façon. On peut revenir à lui, chercher à se laisser instruire pour maintenant retourner dans qu'est-ce qu'il nous demande. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, ce passage-là revient « chercher continuellement sa face ». En conclusion, Dieu a accompli pour son peuple son plan parfait dans un contexte différent du nôtre à certains égards, mais somme toute suffisamment instructif pour comprendre que le repos se trouve auprès de lui et de ses instructions. L'objectif n'est pas d'idéaliser la vie, mais de comprendre que ce qu'on ne contrôle pas parfaitement fait partie de notre cheminement. Et c'est pour ça que pour ceux qui ont connu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont reconnu qu'ils sont fautifs devant Dieu, qui ont manqué devant Dieu, qui ont désobéi à Dieu, qui ont offensé Dieu, mais qui ont été pardonnés à la croix, eh bien, eux autres vont bénéficier, comme on voit dans Apocalypse 6, 11 et 21, 4, d'un repos éternel. Et ce repos éternel, il va se vivre comment? Apocalypse 21, 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. La peine n'existera plus. Et j'inviterai les musiciens à s'avancer maintenant. Et ce repos, c'est un repos où est-ce qu'il y aura une absence de souffrance. Il n'y aura plus de négligence. Il n'y aura plus d'exigence qui va faire une pression sur nous. Il n'y aura plus de provision particulière parce qu'il va y avoir des imperfections. Ça n'aura plus là. Il n'y aura plus d'incompréhension. Ça va être une vie parfaite dans un plan parfait à ce moment-là. Puis ce repos, comme on le voit dans Jean 14, 1 à 6, ça va être sur une nouvelle terre, des nouveaux cieux, dans une demeure préparée par le Seigneur. Mais pour ça, il a fallu passer par la croix. Le passage à la croix est vrai puisque le Seigneur accomplit ce qu'il promet. N'oubliez pas, aucune bonne parole de l'Éternel ne sera sans effet. Nick Vujicic a relevé un défi, il a passé par la croix. Et j'aimerais ça qu'on puisse se recueillir pour, d'un côté, apprécier pour tous ceux qui ont passé par ce cheminement-là, ont passé par la croix pour être sauvés, et donner à ceux qui n'ont pas passé cette provision-là, ce moment-là. Peut-être c'est le moment pour toi de passer à la croix. Peut-être tu nous écoutes, ce n'est pas le temps de fermer la caméra, ce n'est pas le temps de fermer ton ordinateur. Mais je t'invite à juste te recueillir puis de faire une mise au point avec Dieu. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, c'est un rendez-vous avec la croix. Parce qu'à la croix, tu as tout payé. Tu as payé pour nos fautes. Tu as payé pour nos manquements, tu as payé pour nos incompréhensions, tu as payé pour les exigences qu'on a mises sur les autres, tu as payé pour nos négligences, tu as tout payé, Seigneur, à la croix. Et ça, c'est pas parce que tu veux qu'on soit encore négligent puis qu'on vive comme si rien n'était, mais non, quand on s'arrête à la croix, moi, quand je m'arrête à la croix, Seigneur, c'est... Ça me rappelle que je suis rien devant toi, Seigneur. Mais en même temps, ça me rappelle que je suis précieux pour toi parce que tu as payé puis tu m'as tendu la main. Tu m'as dit, je veux te sauver. Puis peut-être quelqu'un qui écoute en ce moment va dire, je ne sais pas si je suis sauvé, je ne sais pas si dans l'éternité je vais venir avec le Seigneur, mais je sais que j'ai fait du mal à des gens, j'ai fait du mal à Dieu, je l'ai déshonoré, je suis coupable. Mais maintenant, je n'y arrive pas par moi-même, je n'arriverai jamais à être parfait. Le bien que je veux faire, j'y arrive pas comme je voudrais. Je voudrais tant faire plus de bien. Puis le mal que je veux pas faire, je tombe dedans. Seigneur, peux-tu me sauver? Peux-tu être celui qui prend ma place, qui subit la colère du Père pour que je puisse vivre une relation avec toi, être instruit par toi, voir des transformations dans mon cœur, voir un amour pour toi grandir? Sauve-moi, s'il te plaît. T'es le seul chemin. Bouddha ne pourra pas me sauver. Mohamed ne pourra pas me sauver. Même moi-même, je ne peux pas me sauver. Je reconnais que le seul sauveur, c'est toi, Dieu, qui as pris ma place à la croix, Jésus. Je veux être sauvé pour goûter le repos pour mon âme, pour découvrir cette paix qui surpasse toute intelligence que tu donnes, pour qu'au travers ce plan qui est à mes yeux imparfait, je puisse juste me reposer de ce que c'est toi qui contrôles toutes choses. que tu me donnes l'intelligence, que tu puisses m'éclairer si je suis sur une mauvaise voie. Seigneur, je te tends la main. Sauve-moi. Si tu l'as déjà fait, fais juste rendre grâce à Dieu de ce qui t'a sauvé, mais qui t'a... fais juste rendre grâce à Dieu que peut-être tu as commis une faute hier. C'est pardonné à la croix. Tu peux recommencer à zéro aujourd'hui. Tu peux prendre maintenant en disant, Seigneur, je veux te suivre. On regarde en avant maintenant. Merci, Seigneur, pour ton plan parfait. Et merci qu'un jour, dans l'éternité, tout sera parfait. Amen. Merci beaucoup.